Moi, j'ai rencontré des professionnels qui ont 60 ans et qui connaissent une personne depuis 40 ans. Donc, évidemment que cette proximité avec les personnes et l'engagement que les professionnels ont avec les personnes qu'on accompagne, il est énorme, bien sûr. Et cet attachement, du coup, c'est ce qui va être aussi décisif pour l'accompagnement de la suite quand il y a une maladie. Par exemple, on a des personnes, des professionnels qui disent « Mais il n'y a personne qui le connaît mieux que nous. Comment voulez-vous qu'il soit accompagné par quelqu'un d'autre ? C'est pas possible. » On a des professionnels qui réagissent comme ça, en disant « Mais moi, je suis prêt à aller... jusqu'à la fin avec cette personne. Je serai là. »
Amandine Sano travaille depuis 10 ans au sein de PASSAGE, un groupement de coopération médico-sociale du Dunkerquois, qui associe à la fois des acteurs associatifs du champ du handicap, des établissements pour personnes âgées dépendantes ou non, des services d'aide à domicile et des structures sanitaires. En tout, une vingtaine de partenaires et plus de 70 établissements.
Déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Un podcast proposé par la communauté mixte de recherche d'IMA pour informer sur la situation spécifique des personnes avec déficience intellectuelle confrontées à la maladie d'Alzheimer.
Un des enjeux de l'accompagnement des personnes avec déficience intellectuelle qui développent la maladie d'Alzheimer, c'est justement de créer des ponts entre des secteurs généralement cloisonnés, le secteur du handicap et celui de la vieillesse, exactement comme le fait PASSAGE.
Épisode 3. Accompagner les choix de vie. Réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige.
Amandine Sano suit environ 80 personnes en situation de handicap qui ont plus de 45 ans et qui vivent dans leur famille ou dans des structures. En tant que chargée de mission, elle va les accompagner pour éviter des ruptures dans leur parcours de vie. Des ruptures qui risquent de se produire, par exemple, quand une personne avec déficience intellectuelle commence à avoir des changements de comportement inexpliqués.
Quand tu es dans une structure, ils connaissent tellement bien la personne que dès qu'elle va commencer à avoir des troubles de l'orientation dans l'établissement, qu'elle va se tromper de porte, qu'elle va, je sais pas, commencer peut-être à mettre son manteau à 6h du matin parce qu'elle a envie d'aller se promener. Voilà, du coup, ça va commencer à alerter. Les professionnels vont commencer à se poser des questions. Ça va être les signes de toute la connaissance de la personne qui, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va plus. C'est pas qu'ils connaissent mieux, c'est que comme ils font pas partie de leur famille, ils ont une distance qui va peut-être les protéger un peu plus sur la vision qu'ils peuvent avoir de la personne. Et quand on va dans une famille, ça m'est arrivé dernièrement, où on peut supposer que la personne elle commence à avoir des troubles cognitifs, la famille elle n'est pas encore dedans. Leur enfant vieillit, il a eu une mauvaise passe, il a été hospitalisé, il a du mal à s'en remettre. Voilà. Ça reste leur enfant. De dire à un moment donné qu'ils peuvent être malades d'Alzheimer, très très compliqué. Très très compliqué.
Amandine Sano peut être contactée à la fois par les personnes concernées, les professionnels, les parents, les tuteurs ou même le département. Sa mission consiste à apporter des réponses personnalisées en fonction des situations. Quand une personne avec déficience intellectuelle développe la maladie d'Alzheimer, Amandine va notamment expliquer les deux possibilités qui existent. Ne pas changer de lieu de vie ou être orientée vers un établissement pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD. Dans un cas comme dans l'autre, elle va venir en appui des équipes.
Donc c'est soit, nous on va l'accompagner pour rester dans son lieu de vie, mais dans ces cas-là, on va soutenir les équipes et on va aussi proposer une réorientation, selon les demandes de la personne, et non pas selon les attentes des structures, ou des parents, ou des tuteurs. Ça, je veux bien le préciser. Donc là, il y a la possibilité d'être réorienté, et s'il y a réorientation, ça sera obligatoirement vers un EHPAD, qui lui-même n'est pas forcément formé, et que nous allons accompagner, pas sur la maladie d'Alzheimer, puisque c'est une maladie qu'ils connaissent, mais plus sur le handicap. En revanche, dans les structures du handicap, on va plus les aider sur Alzheimer que sur le handicap.
Faut-il mieux réorienter vers un établissement pour personnes âgées dépendantes ou maintenir la personne dans son lieu de vie? Privilégier la stabilité, le lien avec les équipes ou proposer un établissement qui connaît mieux la maladie d'Alzheimer?
On va éviter les réorientations quand on voit que la personne, elle est vraiment très attachée à son environnement actuel. On a des personnes qui le sont moins. La première personne qu'on a accompagnée, elle voulait partir. Elle ne voulait plus rester là. Il y avait trop de bruit, il y avait trop de personnes qu'elle connaissait. Non, elle ne voulait plus rester là. Et d'autres qui ne s'imaginent même pas aller ailleurs. J'ai un monsieur qui a fait un essai dans un EHPAD. Ça se passait assez difficilement. Et donc, au bout d'un moment, il fallait prendre une décision. Et avec les deux structures, aussi bien du handicap que de l'EHPAD qui l'accueillaient temporairement, c'était prévu entre eux. Au bout de 10 jours, on a fait un point. Et le monsieur m'a dit, je veux avant. Et donc, en fait, il voulait reprendre sa vie d'avant. Parce que c'est vrai qu'il avait fort décliné sur ces 10 jours. On ne le reconnaissait plus. Et donc, comme il y avait une convention qui avait été signée entre les parties, la personne a pu retourner dans son ancien lieu de vie, dans son foyer de vie.
Avoir cette possibilité de choisir et de pouvoir, le cas échéant, revenir sur son choix, ce n'est pas le cas partout. Bien souvent d'ailleurs, quand un diagnostic de maladie d'Alzheimer est posé, les professionnels du handicap se sentent illégitimes à continuer leur accompagnement, puisqu'ils n'ont pas été formés à la maladie d'Alzheimer. C'est difficile pour eux de savoir comment agir au mieux. Comment savoir s'il vaut mieux aller vers un établissement plus médicalisé ou rester dans un établissement où l'encadrement est plus adapté pour les personnes en situation de handicap?
D'un côté, tu as les EHPAD qui sont dans le soin, dans un projet de soins. Et dans le système médico-social, mais côté handicap, on va être sur quelque chose sur de l'apprentissage, du maintien des acquis, de la stimulation et de l'hyper-même-stimulation. Donc, on a deux secteurs, l'un la connaissance du handicap mais pas du vieillissement, et d'un côté on a la connaissance du vieillissement et pas du handicap.
Il n'y a pas de solution miracle. Il faut prendre en compte les atouts d'un territoire, les spécificités des structures et des équipes, et surtout ce que la personne pense être le mieux pour elle. Il faut peser le pour et le contre de chaque option.
Là, dernièrement, les personnes qu'on accompagne, je privilégie largement le maintien dans un environnement que la personne connaît, avec les personnes qu'elle connaît, avec les odeurs, avec les bruits, avec les voix qu'elle connaît, au moins qui lui sont familières, ça lui apporte nettement plus de sérénité que d'aller dans un endroit qu'elle ne connaît pas.
Amandine Sano n'aurait pas eu le même discours il y a 5 ou 6 ans. Outre son expérience, elle a été formée. Et cette formation lui a permis d'évoluer, de faire des choix différents aujourd'hui et surtout de pouvoir transmettre ses connaissances. Et ce qu'elle tire de son expérience, c'est avant tout de toujours replacer la personne concernée au cœur des prises de décision.
Chaque personne est complètement différente. Chaque situation, à un moment donné, aura des besoins différents, selon son parcours de vie, selon son environnement. Si la personne elle avait l'habitude de bouger, si elle avait... Tout ça, ça rentre en compte. Et donc, je ne peux pas dire objectivement ce qui va être bien pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Je dis juste que les personnes que j'ai accompagnées, j'en ai quelques-unes qui ont préféré une réorientation, ça a fonctionné. Quand c'est leur choix, ça fonctionne toujours. Et si elles ne veulent pas changer, eh bien, elles ne changent pas. Et là, ça fonctionne. À partir du moment où tu maintiens leur choix de vie, leur projet de vie, ça va, ça passe. À chaque décision, en fait, les décisions seront toujours prises par la personne. Alors, certains professionnels ou certaines familles vont me dire « Oui, mais elle ne sait pas s'exprimer. » Donc là, on ira chercher aussi les connaissances. Moi, je ne la connais pas forcément. Si je l'ai rencontrée il y a un mois, je ne connais pas assez la personne pour reconnaître tous ces signes d'apaisement, de négativité, ou si elle est contente, enfin voilà. J'ai besoin aussi des personnes qui lui sont proches pour comprendre. Avec le temps, avec mon expérience, je m'autorise, avec ma collègue, de dire si oui ou non l'orientation est faisable et si elle va être bénéfique pour la personne. La réalité, c'est que plus la personne elle va rester chez elle le plus longtemps possible, et mieux ça sera. Ça, j'en suis quasi sûre. Parce que comme je disais tout à l'heure, même si elle ne reconnaît pas les personnes, même si elle ne reconnaît pas tous les sons, elle va se souvenir émotionnellement du bénéfice que ça lui apporte. que c'est positif pour elle. En fait, pour moi, c'est du bon sens. C'est le bon sens de dire que jusqu'à la fin de ta vie, tu choisis. Tu choisis où tu veux vivre, tu choisis où tu veux aller, tu choisis les personnes qui vont t'accompagner. À partir de là, les questions ne se posent même plus, que tu sois malade ou pas. C'est selon la personne, c'est comme n'importe qui.
Aujourd'hui, les professionnels de passe-âge ne réorientent plus automatiquement les personnes déficientes intellectuelles qui ont Alzheimer vers un établissement pour personnes âgées dépendantes. Les professionnels évoluent dans leur pratique à l'image d'Amandine Sano.
Je suis de formation éducatrice spécialisée, donc en effet, je peux parler en connaissance de cause. Bon, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, même 25, jamais j'ai pensé que les personnes pouvaient vieillir et qu'elles pouvaient avoir des maladies, que moi, en tant que S, je pouvais les accompagner. Jamais. Et quand ça arrive, là, on se dit, bah ouais, du coup, ça fait cheminer toutes les pratiques professionnelles. C'est pour ça que c'est dommage que ça ne soit pas assez mis dans les formations d'éducateurs.
Il faut inciter les pouvoirs publics à mettre en place des formations. En attendant, les professionnels et les structures échangent sur leurs pratiques et commencent à travailler ensemble. Ce que fait le groupement de coopération médico-sociale du Dunkerquois est assez exemplaire. Pourquoi ne pas s'en inspirer et essayer de voir ce qui est faisable ailleurs ? Partage d'expérience au programme du prochain épisode de ce podcast avec le témoignage d'une mère de famille. Et pour retrouver tous les podcasts et bien plus encore, rendez-vous sur social-project.fr/dima.
Déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Un podcast proposé par la communauté mixte de recherche DIMA. Réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige.